BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi.
Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de BFM Patrimoine. Au sommaire ce matin, les résultats historiques des compagnies pétrolières. 150 milliards de dollars de bénéfices cumulés l'an dernier pour les 5 grandes majors, notamment le français Total Energy. Même le président américain Joe Biden s'en est ému. On en parlera avec nos invités du débat. Ce sera dans la deuxième heure de cette émission. Au sommaire également, les propos rassurants de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, confirme que la désinflation a bien commencé aux États-Unis. Même si le marché de l'emploi, par ailleurs, reste très solide. L'économiste Philippe Martinez sera en ligne avec nous. Il nous apportera son analyse dans une dizaine de minutes. Comme chaque mercredi, vous avez rendez-vous avec le Club Immo. On parlera notamment du grand retour du viager, boosté par le vieillissement de la population, mais aussi, vous le verrez, par la réforme des retraites. Vos rendez-vous habituels, la polémique avec Nicolas Dos, ce sera tout à l'heure à 10h40. Et puis, comme chaque mercredi également, la sélection BFM Patrimoine avec nos invités. À partir de 11h45, soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à midi.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et comme chaque matin, on commence par les marchés financiers. Antoine Larigauderie nous attend au siège d'Euronext à La Défense. Antoine, dans la foulée des propos de Jerome Powell hier soir, le CAC progresse de 0,4%. Il y a aussi un effet résultat.
Oui, il y a exactement ça, hein, puisqu'on est aussi dans le sillage de Wall Street qui, après les propos de Jerome Powell, a clôturé sur une très nette hausse. C'est notamment le Nasdaq hein, qui a signé une belle progression de plus d'1%, quasiment 2%, hein, plus 1,9%. C'était vraiment l'indice le plus actif du marché. Et on a un CAC 40 qui est en hausse, qui a commencé un petit peu bille en tête hein, en direction des 7200 points, qui a ralenti un peu la cadence. On se trouve une vitesse de croisière du côté des 0,4% de progression. On se fixe du côté des 7160 points avec une hausse de 0,42% pour l'Eurostock 50 et plus 0,6% pour le DAX à Francfort. Effectivement, il y a un effet résultat, mais pas celui escompté. Ça, c'est intéressant parce que fondamentalement, on reste quand même convaincu par les dernières publications en provenance du secteur pétrolier, du secteur bancaire, qui signe quand même des chiffres extrêmement solides, voire records hein, pour beaucoup de pétroliers et notamment pour notre Total national. Mais toutes ces nouvelles sont prétextes plutôt à des prises de profit ce matin et ralentissent même l'avancée du CAC 40 vu que Total Energy perd 2,4% à 56,17€. On préfère vendre certaines nouvelles malgré des performances qui restent records et fondamentalement excellentes avec un taux de redistribution des bénéfices aux actionnaires qui sont particulièrement alléchants. On a Société Générale hein, qui, alors hors exceptionnel et notamment comptabilisation de ses moins-values sur la cession de ses activités russes, signe quand même des performances très très intéressantes sur l'année 2022 qui vont dans le sens des premières indications qu'on avait en provenance du BS, d'UniCredit, de BNP Paribas hier qui a signé des résultats brillants. Mais Société Générale fait l'objet de prises de profit aussi, moins 1,27 à 27,67€. Là, elles sont un petit peu plus justifiées parce que le secteur bancaire, après le secteur du luxe, est sans doute celui qui se comporte le mieux en bourse. Depuis le début de l'année, on gagne entre 17 et 18% en moyenne. Et puis, les perspectives restent extrêmement intéressantes en termes de valorisation en faveur du secteur bancaire européen. Donc, logique qu'il y ait quelques prises de profit ce matin. Maintenant, du côté des titres à la hausse, il y a pas mal de choses à signaler. EssilorLuxottica qui gagne 1,9% à 176,50€. C'est la plus forte hausse du CAC 40 depuis le début de la séance. On a Unibail-Rodamco Westfield, plus 1,6% à 61,98€. BNP Paribas qui poursuit son chemin à la hausse, plus 1,43€ à 63,23€. Et puis, on a également la techno qui se porte bien dans le sillage du Nasdaq hier soir, STMicro grimpant d'1,3% à 45,88€. Puis on a aussi Capgemini, plus 1,08% à 187,15€. La plus forte hausse du SBF 120, elle est pour CGG qui gagne 6,8% à 85 centimes d'euros. Mention spéciale pour Amundi qui a sorti des chiffres alors très solides aussi et qui gagne 2,8% à 62,95€. La plus forte baisse pour Orpea, habitué des bas de tableau ces dernières semaines. Moins 4,4%, le titre tombe à 2,24€. Le CAC 40, monte, plus 0,43%, 7163 points. Et l'euro se renforce un petit peu par rapport au dollar. On est à 1,0753. Un dernier mot, c'est le pétrole. Le Brent qui continue sur sa lancée et qui s'approche de la zone des 85 dollars. On est à 84,47 en ce moment.
Merci beaucoup Antoine Larigauderi. Prochain rendez-vous avec les marchés, ce sera tout à l'heure à 10h30 avec le match des traders. 10h06 sur BFM Business, l'essentiel de l'actualité économique.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Stéphane. Et à la une, ce sont les résultats historiques de Total Energy. Le groupe affiche le meilleur bénéfice de son histoire en 2022 à 20,5 milliards de dollars, en hausse de 28% sur un an, tiré par les prix et l'augmentation de sa production. Jusqu'à 40% des bénéfices devraient revenir aux actionnaires, dont 2 milliards de dollars de rachat d'actions au premier trimestre. Écoutez la réaction de François Asselin, le président de la CPME. Il était l'invité ce matin de Good Morning Business.
Ah, je suis jaloux. Écoutez, mais attendez, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Une entreprise qui gagne de l'argent, qui gagne beaucoup, c'est quand même une bonne nouvelle. Si vous aviez fait votre une en disant catastrophe, Total fait des pertes abyssales, on l'a vu sur les chiffres du commerce extérieur, ça serait un peu plus inquiétant. Et j'aime mieux vous dire que beaucoup vont être à la fête avec de tels résultats. Savez-vous que les premiers actionnaires de Total, ce sont les salariés eux-mêmes. 6,5% je crois du capital de Total appartient aux salariés. Eh bien, j'aime mieux vous dire que lorsque Total va distribuer les dividendes, les premiers bénéficiaires, parmi les premiers bénéficiaires, il y aura les salariés, il y aura aussi la participation, il y aura l'intéressement. Bref, mais ça participe, plus les impôts versés, ça participe à tout le monde.
Et dans une interview au Parisien, Patrick Pouyanné dit envisager de nouvelles mesures de rabais à la pompe si le litre de gazole repasse au-dessus des 2 euros. Autre record pour Maersk, cette fois le géant du transport maritime enregistre le meilleur bénéfice de son histoire à plus de 29 milliards de dollars, en hausse de 63% sur un an. Performance liée à l'augmentation des prix du fret par conteneur. Dans le secteur bancaire, Société Générale fait mieux que prévu. Le produit net bancaire équivalent du chiffre d'affaires ressort à 28 milliards d'euros, en hausse de près de 9% sur un an, mais le bénéfice net est quasiment divisé par 3, à 2 milliards d'euros, plombé par la cession de sa filiale russe Rosbank. La banque confirme ses objectifs pour 2025. De son côté, Amundi publie un bénéfice net en recul de 20% sur un an, à plus d'un milliard d'euros. C'est néanmoins mieux que prévu. Le leader européen de la gestion d'actifs enregistre une collecte nette de 15 milliards d'euros au quatrième trimestre. En Allemagne, Volkswagen publie un bénéfice opérationnel en hausse de 12,5% à 22,5 milliards d'euros hors éléments exceptionnels. C'est conforme aux prévisions, mais le constructeur manque son objectif de flux de trésorerie en raison de problèmes d'approvisionnement. Et puis en France, il y a ce coup de frein de l'emploi salarié privé au quatrième trimestre. Il ressort stable après 7 trimestres consécutifs de nette hausse. Dans le détail, l'intérim augmente de nouveau alors que l'emploi dans l'industrie et le tertiaire ralentit. Et puis la mobilisation contre la réforme des retraites va se poursuivre dans les raffineries. La CGT de Total Energy reconduit le mouvement. Les expéditions de carburant vers les dépôts sont suspendues actuellement sur 4 sites. Stéphane.
Merci beaucoup Stéphanie. On se retrouve tout à l'heure pour le prochain point. Ce sera à 11h. Tout de suite, notre pépite.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Et on s'intéresse ce matin à l'entreprise Lectra. Elle est spécialisée dans la transformation digitale des entreprises pour les secteurs de la mode, de l'ameublement et de l'automobile. On va en parler avec Pierrick Bochet, directeur général de InnoCap Gestion. Bonjour Pierrick.
Bonjour Stéphane.
Merci d'être avec nous. Pourquoi est-ce que c'est une valeur intéressante?
Alors, Lectra, qui est une pépite, mais qui n'est pas une recommandation d'investissement, mais un exemple parmi nos convictions. Bah, Lectra, c'est un leader mondial. C'est le leader mondial des machines de découpe automatisées qui sont utilisées effectivement dans l'automobile, dans l'industrie de la mode et de l'habillement, et également par les sociétés d'ameublement. Alors, il est important de rappeler que nous sommes actionnaires de Lectra depuis de nombreuses années au sein de notre gamme de fonds quadriges. En 2023, ces ventes sont attendues à environ 550 millions d'euros par le consensus, avec une rentabilité opérationnelle d'environ 15%. Lectra, c'est un numéro un mondial au positionnement très différenciant, unique au monde, avec des prix de vente au moins 30% supérieurs à ceux de ses concurrents. Cette solide différenciation provient de ses innovations permanentes. Lectra est une entreprise technologique qui alloue chaque année environ 10% de son chiffre d'affaires à la R&D. Lectra a dépensé depuis 10 ans 3 à 4 fois plus de R&D que le montant cumulé par l'ensemble de ses principaux concurrents. Cette différenciation, nous la mesurons à travers ses très solides parts de marché au niveau mondial. Sur le segment automobile, pour les intérieurs en tissu, c'est 80% de parts de marché, en forte amélioration avec les équipements de nouvelle génération lancés il y a 3 ans. Pour les intérieurs en cuir, c'est 50%. Pour la découpe d'airbag, c'est 70% de parts de marché mondiale. L'offre de Lectra inclut non seulement les équipements, mais aussi la couche logicielle qui y est intégrée et qui est capable de traiter et analyser les données générées par les centaines de capteurs intégrés aux machines. Ces logiciels rendent les machines de coupe intelligentes et placent Lectra au cœur des principes de développement durable définis par les Nations Unies, les fameux ODD. Lectra contribue au progrès industriel tout en réduisant la consommation de matières premières. Quelques chiffres pour mesurer la puissance de son positionnement. Ces équipements de découpe de nouvelle génération permettent à ses clients d'économiser en moyenne 4% de matière par table de découpe et par année. 1% de matière première économisée représente un gain de 100 000 euros. 4%, c'est donc 400 000 euros. Et le prix de ces équipements, c'est environ 350 000 euros. La puissance des innovations de Lectra fait donc gagner de l'argent à ses clients en un an. Nous avons bien ici l'essentiel, la matérialité de l'impact. Lectra permet de faire plus avec moins. C'est ça, pour InnoCap Gestion, la crédibilité d'un positionnement vertueux. Lectra nous embarque dans la productivité environnementale. Et ses solutions, véritables concentrés de valeur ajoutée, permettent d'optimiser les plans de production de ses clients, de raccourcir les cycles d'approvisionnement et de fabrication, donc de réduire les besoins en trésorerie. Cette approche vertueuse est à l'origine d'une accélération du renouvellement des équipements. En 2022, les commandes des clients automobiles pour Lectra ont été en progression de 50% au plus haut historique dans un environnement plutôt récessif pour le marché automobile. Par l'intelligence et la puissance de ses innovations, par son management visionnaire d'une très grande qualité et à l'exécution remarquable, Lectra contribue à rendre le monde meilleur. C'est l'un des grands gagnants d'un monde qui change, l'un des grands gagnants de ce nouvel environnement plus inflationniste qui impose aux acteurs économiques d'accélérer leurs investissements de productivité à la recherche de la reconstitution d'une partie de leur rentabilité absorbée par les pressions inflationnistes. Lectra est un bélier de ce nouveau paradigme investissement 4.0. Alors à très court terme, la visibilité est modérée en lien avec les incertitudes économiques actuelles, mais à moyen terme, l'accélération de la croissance de ses profits nous semble bien enclenchée, alimentée notamment par la réouverture de la Chine, qui préfigure pour Lectra d'une probable accélération généralisée à venir de la croissance de ses commandes.
Merci beaucoup, Pierrick Bochet, directeur général de InnoCap Gestion. La valeur a grimpé de 17,5% depuis le début de l'année. 39,05 € ce matin, l'objectif de cours moyen. Attention, ce n'est pas l'objectif de cours de InnoCap Gestion. 40,80 €. Donc, potentiel relativement limité pour la hausse à moyen terme. On s'intéresse maintenant aux propos de Jérôme Powell tenus hier soir aux États-Unis.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Le président de la Réserve fédérale américaine a rassuré les marchés financiers. Il confirme que la désinflation a bien commencé aux États-Unis, même si le marché de l'emploi reste par ailleurs très solide. On en parle avec Philippe Martinez, chef économiste Europe à Société Générale CIB. Bonjour.
Bonjour, Michel Martinez.
Michel Martinez, excusez-moi. Jérôme Powell s'est exprimé hier soir. L'actualité nous fait penser à Philippe Martinez, désolé pour ce parallèle. Jérôme Powell s'est exprimé hier soir, donc il y avait quelques inquiétudes sur un éventuel durcissement de son discours après le rapport sur l'emploi publié la semaine dernière. On avait eu 517 000 créations d'emplois au mois de janvier aux États-Unis. C'était pratiquement trois fois plus que le consensus.
Oui, alors... On est dans un scénario très difficile pour la Fed, mais la plupart des banques centrales, c'est pareil pour la Banque Centrale Européenne, c'est qu'il y a des signes évidents de désinflation, alors au sens où on parle de taux d'inflation très élevés et ils sont en train de baisser, c'est vrai pour l'énergie, c'est vrai aussi pour probablement pour l'inflation des biens. Donc ça va dans la bonne direction et si ça va dans la bonne direction, puisque c'est le mandat principal des banques centrales, on se rapproche probablement de la fin des hausses des taux et puis même on a les marchés qui commencent à anticiper une baisse des taux en fin d'année. Mais c'est un scénario difficile parce que quand on regarde les données dures d'activité, là, vous citiez le marché de l'emploi, on a une forte résistance de l'activité. C'est vrai pour les États-Unis, vous mentionnez plus de 500 000 créations d'emplois, un taux de chômage hystériquement bas, tous les indicateurs de tension sur le marché du travail qui sont les plus tendus qu'on ait jamais vus. Mais c'est vrai aussi pour d'autres données d'activité. Je pense par exemple aux données de croissance en zone euro. On n'a pas eu un seul trimestre négatif l'an dernier, et ce malgré l'accumulation de chocs, hein, qu'on se rappelle tous ces chocs l'an dernier après la guerre en Ukraine. Et l'INSEE hier aussi a donné ses prévisions pour le premier semestre, qui sont quand même assez correctes, 0,2% de croissance chaque trimestre. Donc on est sur des rythmes d'activité qui restent très corrects. Et donc pour la Banque Centrale Européenne, pour les banques centrales, c'est pas l'assurance du tout que l'inflation sous-jacente domestique va revenir rapidement à 2%.
Quelles sont désormais les anticipations du marché en matière de politique monétaire? Est-ce que pour les États-Unis, le scénario, c'est toujours un plateau cet été et peut-être une première baisse des taux d'ici la fin de l'année?
Oui. Ça nous paraît très prématuré. Effectivement, le scénario, c'est que maintenant, pour la Fed, on va avoir deux hausses des taux de 25 points de base. C'est aussi ce que la Fed nous indique. La Fed nous indique qu'elle va pas baisser ses taux avant quelque part comme de 2025, mais le marché lui anticipe des baisses de taux dès après l'été, aussi bien pour la Fed que pour la Banque Centrale Européenne. Donc le marché fait un pari que ça y est, il y a plus de sujet d'inflation, qu'on va revenir à l'inflation à 2%. Quelque part, alors probablement pas cette année, mais quelque part en 2024, et donc comme les banques centrales vont l'anticiper, elles vont se mettre à baisser les taux. Nous, quand on voit la résistance de l'économie et du marché et des marchés du travail, on a des doutes sur des baisses de taux cette année.
Ouais, justement, est-ce que la Banque Centrale Européenne, qui a déjà annoncé 50 points de base de hausse pour sa prochaine réunion, pourrait être tentée d'aller plus loin vu que l'économie résiste plutôt bien? Vous en avez parlé avec notamment les prévisions de l'INSEE qui confirment qu'a priori on va éviter la récession au premier semestre en France.
Oui. Le pareil. Donc là, comme vous l'avez dit, on s'attend à 50 points de base en mars, qui mettrait le taux de dépôt, rémunération des dépôts à 3%. Nous-mêmes, nous pensons que compte tenu de la résistance de l'activité et aussi de la persistance de l'inflation sous-jacente, hein, par exemple, l'INSEE prévoit 5,7% d'inflation sous-jacente tout le premier semestre, on pense que la Banque Centrale Européenne sera amenée à remonter ses taux plus que ça. Nous, on les voit jusqu'à au moins 3,75%.
Merci beaucoup pour votre analyse, vos commentaires. Michel Martinez, chef économiste Europe chez Société Générale CIB. Il est 10h18, on va parler immobilier.
BFM Business, BFM Patrimoine, le club IMO.
Comme chaque mercredi, le club IMO avec nos invités Éric Tréguier, journaliste au magazine Challenge, Bruno Monnier-Vinard, journaliste au magazine Le Point. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et à vos côtés, comme chaque mercredi, Marie Cœur de Roy, notre spécialiste immobilier. Bonjour Marie.
Bonjour Stéphane.
On va parler conjoncture pour commencer, ça tombe bien, c'est le moment des bilans annuels. Atterrissage forcé, Bruno, pour l'an dernier. Est-ce qu'on peut faire un tour d'horizon en termes de volume, de vente, de prix?
Oui, alors, je remets un peu en perspective, hein, le marché de l'immobilier dans l'ancien planait à des altitudes stratosphériques, hein, ces deux dernières années, avec plus d'un million de ventes. Pour rappel, c'est deux fois plus qu'il y a 10 ans. Pourquoi? Les leviers, on les connaissait. Une envie post-Covid de verre et de grand air, d'espace. Et puis de l'argent bon marché avec des crédits qui étaient quasi gratuits. Et puis ensuite, on a connu un trou d'air à l'automne avec donc les turbulences qui venaient de la remontée des taux d'intérêt, d'emprunt, la guerre en Ukraine, le surcoût de l'énergie, l'encadrement des loyers, la réforme du diagnostic de performance énergétique. Et au final, donc des prix qui sont, et puis des prix très, 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 très élevés, complètement de plus en plus décorrélés du pouvoir d'achat des prétendants. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous les réseaux, tous les réseaux coopératifs ou en franchise, tous les réseaux immobiliers. Bon, je les cite, hein, Orpi, Century 21, Guy Hoquet, La Forêt, L'Adresse, font état de ventes en recul de 10% déjà. Et c'est une tendance qui devrait se confirmer, voire s'accélérer dans les mois qui viennent. Cette tendance touche tous les secteurs, c'est-à-dire les cœurs surtout le cœur des grandes métropoles, mais aussi leur première couronne, les villes satellites. On voit qu'il y a eu un volume de crédit qui a drastiquement chuté en fin d'année, pour les raisons que l'on connaît, qu'on évoque souvent ici. Cette inflation qui s'est invitée aussi dans le débat, et au final cette hausse des intérêts d'emprunt, rappelons-le, qui concerne 9 achats sur 10, elle fait que elle a renié le pouvoir d'achat, notamment des primo-accédants et le reste à charge. Il faudrait que les prix baissent d'environ 10% pour compenser la hausse des taux d'intérêt.
Et ça n'est pas le cas pour l'instant.
Voilà, c'est pas le cas, mais ça pourrait l'être. Les derniers chiffres que l'on possède, ce sont ceux de meilleurs agents, qui nous montrent qu'en un mois, les prix ont baissé de 0,3% à Paris, 0,4% à Rennes, 0,5% à Nantes, 0,6% à Lille et 0,9% à Lyon. Tout ça en un mois. Et les zones rurales donc ne sont pas épargnées, 0,3%. Et je vais terminer là-dessus. En deux mois, la petite couronne francilienne a perdu 0,7% et la grande couronne 0,3%. Donc aujourd'hui, avec des délais de vente qui se rallongent, plus 12 jours en un an. Au final, les prétendants, s'ils ne revoient pas leur projet à la baisse, c'est-à-dire ils perdent en prenant une pièce en moins ou une localisation moins prime et l'extérieur dont ils rêvaient, malheureusement, ils peuvent passer à l'action.
Éric Tréguier, ralentissement qui s'accélère. Est-ce que pour autant ça vous inquiète ? C'est vrai qu'on vient quand même de très loin.
On pourrait voir la chose de deux façons. Ça peut être inquiétant, un ralentissement, mais ça peut être aussi très intéressant, une baisse des prix, parce que on a un véritable problème aujourd'hui en France, qui est l'accès au logement pour des jeunes couples. On a remarqué qu'aujourd'hui, de plus en plus d'acheteurs sont ce qu'on appelle des seconds ou des tertiaux acquéreurs, c'est-à-dire des gens qui ont déjà un apport personnel conséquent. Les gens qui n'ont pas d'apport personnel sont exclus du marché. Alors, du coup, normalement, ça devrait conduire à une situation où les prix devraient baisser, puisqu'il n'y a plus, tout à fait de demande. Mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a une demande qui reste très, très forte. Et en face, il y a très, très peu d'offres. On le sait, le logement neuf est en véritable décapilotade. On attendait quelque chose comme, il faudrait 400 ou 500 000 logements neufs chaque année. On est pratiquement à deux tiers simplement de ça. Le logement social, le gouvernement avait programmé 120 000. Il y en a moins de 100 000 qui ont été construits. Tout est en train de se défaire. Et il y a quelques jours, la Fondation Abbé Pierre faisait son rapport et rappelait quand même que on est face à une bombe sociale dont le gouvernement et notamment Emmanuel Macron ne semble pas avoir pris conscience. Le ministre du Logement, Olivier Klein, l'a dit lui-même, la situation est explosive. Et donc, on se retrouve devant ce paradoxe, c'est-à-dire des prix qui ne vont pas baisser, un marché qui est en train de régresser et une énorme interrogation sociale.
Mais c'est dramatique, je rejoins ce que dit Eric, effectivement, parce que, en fait, à chaque fois, c'est toujours une histoire de vase communicant en immobilier. Eric parlait du fait qu'on ne construit pas assez dans le neuf, c'est une évidence, et ça a une influence directement sur les prix de l'immobilier dans l'ancien, c'est-à-dire que, normalement, les prix devraient nettement baisser. Là, bien sûr, le marché est en train de se retourner, mais ça reste effectivement alimenté par les gens qui voudraient acheter dans le neuf, qui ne peuvent pas, qui du coup vont rester sur l'ancien, et donc ça alimente artificiellement presque, j'ai envie de dire, les prix dans l'ancien. Et puis l'autre histoire de vase communicant, pour ça on parle de bombe sociale, c'est-à-dire tout le monde n'est pas fait ou ne peut pas, c'est mon cas par exemple, devenir
propriétaire. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On reste locataire. Le problème, c'est qu'encore une fois, histoire de vase communicant, si je voulais devenir propriétaire, que je ne suis pas en capacité de l'être, eh bien, je reste locataire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a de moins en moins d'offres à la location, de plus en plus de demandes de location, et donc on a une tension locative qui est au sommet, des loyers qui, malgré les encadrements des loyers, peinent à descendre, malgré effectivement le blocage à 3,5% de hausse de l'indice de référence des loyers qui avait été décidé par le gouvernement dans le cadre de ce climat inflationniste. Pour autant, c'est pas suffisant. On a une vraie problématique pour loger les gens en France et elle touche pas uniquement ceux qui veulent accéder à la propriété. On parle de juste avoir un toit sur sa tête, quitte à rester locataire. Personne, tout le monde n'est pas forcément arc-bouté sur l'idée d'être propriétaire. Mais encore faut-il pouvoir se loger dignement. Et c'est sans parler des histoires de DPE, hein, le diagnostic de performance énergétique, les passoires thermiques et tous ces logements qui vont sortir potentiellement du marché.
Bruno, vous souhaitez réagir?
Juste pour poursuivre sur ce que vient de dire Marie, le paradoxe aussi, c'est que ceux qui sont déjà propriétaires ne peuvent pas passer à l'action pour changer, pour mieux, parce qu'ils ne trouvent pas. Et donc, ils restent en place. Et donc, voilà, ça grippe tout ce jeu de poupées russes.
Est-ce que la décision de la Banque de France de revoir le taux d'usure mensuellement, désormais, peut changer un petit peu la donne?
Bon, ça va simplement mettre un petit peu d'huile dans les rouages, mais ça va rien changer fondamentalement. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'offre. L'offre, elle est insuffisante. L'offre, elle est trop chère. La France est le pays de l'OCDE où la différence entre les prix de l'immobilier et le salaire médian est la plus élevée. Et la plus distante.
C'est là où le logement coûte le plus cher, oui.
Grosso modo, par rapport oui, au moyen de la. Et donc, on se retrouve devant un système qui est grippé. Et les économistes nous disent, les prix français sont surévalués de 25%. Et on sait, vous et moi, parce qu'on regarde bien ce marché, que jamais les prix ne descendront de 25%.
Vous en êtes sûr?
Ah oui.
Absolument certain.
Alors, moi, je mets un petit bémol. C'est-à-dire, effectivement, à l'échelle nationale, moi, je suis assez d'accord avec Eric, ça va pas y avoir d'effondrement des prix. En revanche, je m'interroge, mais c'est toujours ça va être mon combat, là, sur les prochains mois, c'est de savoir si des villes qui ont été vraiment, je pense, surévaluées à l'aube du Covid et de ces franciliens ou habitants des grandes villes qui sont partis dans des villes un peu moyennes, voire petites, et qui ont fait flamber les prix, parfois avec des hausses de prix, mais de 10, 15, 20% sur un an, hein, sur ces 2-3 dernières années. Est-ce que elles vont pas avoir une correction assez difficile, c'est probable. Mais à l'échelle nationale, je suis complètement d'accord avec Eric. C'est-à-dire, il ne faut pas s'attendre à une baisse des prix de 20-25%.
Mais là, on parle des villes de la couronne parisienne ou est-ce qu'on parle des villes moyennes
en région ? Non, je parle plutôt des villes de province, plutôt moyennes à petites, avec des vraies problématiques de résidences secondaires, de gens qui voulaient télétravailler, qui pensaient que. Et avec des. Vraiment, enfin. Je parle pas non de la banlieue parisienne, non, même si on va avoir une correction en banlieue parisienne, hein, ça c'est évident, hein. Là vous êtes dans nos petites histoires, mais ce matin je vais prendre mon café et je rencontre un collègue de notre entreprise qui me dit j'ai rencontré un agent immobilier de Saint-Mandé qui me disait que pour la première fois en 16 ans de carrière, il avait rien vendu, rien du tout en un mois, rien. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il va y avoir quand même une correction aussi en banlieue parisienne, ça c'est une évidence.
C'est ça le privilège d'être Marie Cœur de Roi dans la rédaction.
Tout le monde vient me parler
Business, c'est que tout le monde vient lui parler d'immobilier. C'est un peu comme les présentateurs météo. Tout le monde va les voir pour leur demander quel temps il va faire dans 3 mois pour le mariage de leur cousine. On va marquer une pause. Dans un instant, on parlera des marchés. La deuxième partie du Club Immo, ce sera dans une bonne dizaine de minutes. Pas mal de sujets sur la table. On parlera du viager. C'est le grand retour du viager. Pour le meilleur et peut-être aussi pour le pire, c'est le principe. On parlera aussi des passoires thermiques. On parlera du fisc. On parlera de la vie de château et de Méribel et de Marseille. Le sommaire est chargé. À tout de suite.
FM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Stéphane Pedrazzi.
Un peu plus de 10h30, la Bourse de Paris est bien orientée, le CAC progresse de 0,58%, 7173 points. On va en parler avec nos deux traders, Gilles Santacreux, trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com, et Jean-Louis Cussac, comme tous les matins, trader formateur chez Perceval Finance. Gilles, on commence avec vous, séance marquée par les propos de Jérôme Powell hier soir et par des résultats d'entreprise.
Oui, bonjour. Effectivement, Jérôme Powell donc a confirmé ce qu'il avait dit la semaine dernière lors de cette dernière intervention. Donc, on a vu des marchés américains qui sont repartis à la hausse, qui ont été plus ou moins rassurés. Au niveau des résultats d'entreprise, effectivement, on a Total et Société Générale donc qui ont diffusé des résultats très très positifs. Et ce que l'on peut observer, ce sont des mécanismes assez similaires, à savoir par rapport justement à ces confirmations, eh bien un arrêt du marché qui manque de catalyseurs. Alors, ça ne s'explique pas forcément par une volonté de se retourner, mais on a tout simplement un objectif qui est atteint, un petit peu comme pour des résultats d'entreprise, et donc un marché qui ne trouve pas de nouveaux vecteurs pour continuer à justifier une poursuite de mouvements haussiers. Donc, on se stabilise, on a toutefois validé la zone des 7110 points qui était résistance la semaine dernière comme une nouvelle zone de support. On a un niveau de résistance intraday depuis le début de la semaine à 7180 que l'on ne parvient pas à casser durablement. C'est un niveau que l'on a testé ce matin et pour l'instant on évolue donc sous ce niveau. Au moment où je vous parle, on est à 7170 points et donc ça va être un petit peu l'enjeu du jour, c'est d'observer si le CAC 40 parvient à déborder cette zone et à revenir sur les points hauts qui ont été marqués en fin de semaine dernière. Si c'était le cas, on pourrait viser un retour donc sur la zone des 7250 points. Au niveau donc justement des possibilités de consolidation. Au niveau de mes algorithmes, par manque de catalyseur, justement, on détecte un risque de consolidation qui est beaucoup plus fort. Et donc, le premier niveau d'alerte serait donc une cassure des 7110. On aurait une alerte, je dirais, de changement de tendance sur une rupture baissière des 7025 points, avec un retournement, signal de retournement, sous 6950. Mais grossièrement, tant que l'on est au-dessus des 7110 points cette semaine, on reste dans une perspective donc qui se neutralise. On a eu donc des news qui ont été diffusées et là on est en train un petit peu de digérer ça, mais avec une perspective qui reste haussière puisque cette résistance donc est confirmée comme support. Manque de catalyseur, il est vrai que dans ce contexte, une mauvaise news pourrait venir dégrader les conditions de marché, mais pour l'instant, ça reste positif avec donc un objectif de retour sur les points hauts qui ont été marqués la semaine dernière. Aujourd'hui, on aura juste les stocks du pétrole pour animer, cette séance, donc on devrait avoir un marché relativement calme, en tout cas beaucoup plus calme que la semaine dernière.
Merci beaucoup Gilles Santacreux. Jean-Louis Cussac est également avec nous, trader, formateur chez Perceval Finance. Quel est votre regard sur cette séance, Jean-Louis ?
Toujours le même, j'essaye d'acheter le mieux possible, c'est pas toujours facile. Hier, ça a été encore possible, dans de bonnes conditions, ce matin un peu moins. Moi, j'achète jusqu'à 7143, j'ai payé 57 et je suis déjà ressorti à 77. Le marché passe beaucoup de temps à ne rien faire et puis après il réagit à des événements. Alors voilà, avec Jérôme Powell, vous vous rendez compte, on a fait plus 1,3, moins 1,8, plus 2,2 et puis là ça rebaisse un petit peu. Je parle du marché américain. Il y a essentiellement des algos de trading avec des stratégies spéculatives à très court terme. Il n'y a pas de conviction vraiment derrière ces mouvements, attention. Donc, et la preuve, c'est des mouvements de 2% dans un sens ou dans l'autre comme ça. Ça peut pas être de la conviction. Donc globalement, les marchés, si vous voulez, sont identiques à ce qu'ils étaient précédemment. De toute façon, Powell a répété mot pour mot. L'euro-dollar, on achète jusqu'à 1,0710. Le CAC jusqu'à 7143. Et on essaye de faire des écarts en restant évidemment de plus en plus prudent parce qu'à un moment donné, il y aura bien quand même un petit retracement. Ça fait 13 ou je ne sais plus combien de séances que le marché avance laborieusement. Mais il retrace jamais sensiblement.
Merci beaucoup Jean-Louis Cussac, trader et formateur chez Perceval. Il est 10h36, la polémique.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Joe Biden vise les riches dans son discours sur l'état de l'Union devant les deux chambres du Congrès. Le président américain appelle à installer une taxe minimale sur les entreprises milliardaires.
J'ai envie de vous dire, c'est assez classique aux États-Unis en fait. On présente l'Amérique comme un pays libéral. Ils ont le réflexe assez régulièrement de la taxation sur les plus hauts revenus. Alors là, c'est sur les entreprises milliardaires. Taxe minimale, ça fait penser bien sûr à l'accord international qui a été trouvé au sein de l'OCDE pour installer, vous savez, un impôt sur les sociétés minimales à 15%. Mais si on remonte à 2020, le New Jersey avait annoncé qu'ils allaient passer la taxation sur les plus hauts revenus au-delà de 10%. Puis évidemment, on se souvient du célèbre Franklin Roosevelt qui, au moment du New Deal 1934-1938, va à partir de 1941 imposer un taux marginal pour les plus hauts revenus de 91%. Et pendant 50 ans, l'Amérique va vivre avec un marginal à 80%. Alors tout le monde dit, eh ben regardez, ils le font, pourquoi pas nous? Mais faut voir que dans cette taxation Roosevelt, on avait fait une assiette fiscale tout à fait particulière et très 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 étroite, ce qui fait que le nombre de contribuables qui tombaient dans cet impôt, ça tenait pratiquement sur les doigts de la main.
Hein. Ouais. Est-ce qu'on sait cette fois-ci ce que voudrait faire Joe Biden?
Bon, là, il a ciblé les profits des groupes pétroliers en 2022, qui sont impressionnants. Hein. ExxonMobil, 56 milliards, Chevron, 36 milliards, Shell, 40 milliards. Il les juge scandaleux. Je vais lui laisser ce terme de scandaleux parce que là, c'est vraiment un jugement de valeur. Est-ce qu'il faut mettre un jugement de valeur à côté des profits d'une entreprise? Bon, ça m'amuse. Il y a un côté effet d'annonce quand on sait que Joe Biden est quand même l'ancien sénateur du Delaware qui est là. Premier paradis fiscal américain. Bon. Ensuite, deuxième chose, c'est aussi un effet d'annonce parce qu'il ne peut rien faire tout seul. Il n'est pas comme l'exécutif français qui, notamment sur des questions fiscales, dispose du 49-3. Il faut le Congrès là-bas. Et Joe Biden, il n'a que le Sénat. Il n'a pas la Chambre des représentants. Et là, j'imagine le débat est probablement le peu de chances d'aboutir. Après, sur le fond, il faut se demander une chose. De quoi on parle? Est-ce qu'on parlerait d'une taxe exceptionnelle compte tenu d'une année totalement hors norme, considérant que les profits des pétroliers peuvent d'une certaine manière s'apparenter à une forme de rente? Parce que c'est vrai que ces profits incroyables, c'est pas l'extraordinaire pricing power des groupes pétroliers qui les ont rendus possibles, pas comme LVMH par exemple. Non, là c'est juste un marché qui dysfonctionne, un choc énergétique qui va porter à des sommets absolus les résultats de ces entreprises. Faut rappeler que certaines années très très mauvaises, il n'y a pas un plus devant, il y a un moins. La plupart des pétroliers ont fait des pertes en 2020, qui avait été, elle aussi, une année hors norme d'une autre manière. Vous savez bien pourquoi. Donc là, honnêtement, on peut avoir un débat. On en parlait ce matin avec Jean-Marc Daniel qui dit, non, tant qu'il y a de la concurrence dans un secteur, on ne peut pas considérer que c'est une rente. Oui, mais là, c'est quand même très particulier parce qu'on parle de ce secteur-là et des profits du secteur pétrolier qui, donc, ont une manière de se constituer qui ne correspond pas à une entreprise qui est compétitive, qui innove, qui a une stratégie et qui, à la fin de cette stratégie, obtient des gains. Voilà. Après, attention de pas aller trop vite en besogne et de remplacer entreprise milliardaire par milliardaire. Parce qu'il y a très vite la volonté d'aller taxer les personnes physiques avec une mauvaise foi, voire une ignorance qui consiste à confondre régulièrement les flux qui sont les revenus avec le stock qui est le patrimoine et qui, pour l'essentiel, est un patrimoine professionnel. Là, c'est différent. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce qu'a dit Joe Biden, c'est à la fin de son discours sur cette partie-là, hein, où il a indiqué vouloir quadrupler la fiscalité sur les rachats d'actions. Autant j'ai toujours considéré que le dividende était la vie normale d'une entreprise cotée dans une économie libre. Autant les rachats d'actions, quand on voit les montants qu'ils atteignent aujourd'hui, là, c'est un peu intuitif. Parce qu'on en parlait ce matin avec Natacha Valla qui nous disait que la littérature économique sur le sujet était moins dénonciatrice que j'ai tendance à l'être un peu intuitivement, mais je considère que des profits de la valeur ajoutée, ça n'a pas vocation à être réinjecté en milliards ou en dizaines de milliards d'euros dans des rachats de dividendes. Il y a un des pétroliers, je crois que c'est Chevron, qui a annoncé 75 milliards d'euros de rachats d'actions en l'espace de 5 ans. Quand même des montants astronomiques. J'ai un peu l'impression que c'est un marché qui dysfonctionne. Et là aussi, on peut probablement avoir un débat sur faut-il ou pas laisser ces milliards partir dans les rachats d'actions, parce qu'évidemment, c'est autant moins d'argent pour des projets d'investissement.
Vous parliez de Joe Biden, mais chez nous aussi, Nicolas, l'idée d'aller taxer les plus riches de manière exceptionnelle, les entreprises, mais aussi les personnes physiques, on en parle beaucoup.
Ah, on l'évoque. Et puis, alors, vous inquiétez pas, depuis 8 heures ce matin, ça va repartir, puisque Total Energy a publié ses profits 2022. On savait qu'ils seraient records. Ils le sont. Ils sont à 20 milliards et demi d'euros. Et encore, il y a eu l'arrêt de toute une quantité d'activités russes qui, sans ça, auraient tiré les profits à 36 milliards d'euros. Souvenez-vous, déjà, quand Total avait passé les 10, la barre symbolique des 10, on a vu le débat sur les super profits. On va l'avoir, évidemment, à tous les coups ici. Il y a quand même des nuances entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui peut se passer chez nous. D'abord, l'Amérique peut se permettre quelques sorties de route fiscales, parce qu'elle part d'un niveau de taxation qui n'est pas le même que le nôtre. Elle a une marge de manœuvre en termes de fiscalité. Nous, quand on est au taquet mondial des prélèvements obligatoires, c'est pas la même donne. Après, aux États-Unis, vous n'avez pas la haine du riche. Vous n'avez pas la haine de la réussite, comme on l'a de manière vraiment sauvagement exprimée du côté de la gauche en France. Et d'ailleurs, Joe Biden, quand il cible les rachats d'actions, il cible ça uniquement considérant que c'est au détriment de l'investissement. Et donc, c'est un argument purement économique qui lui fait penser que les rachats d'actions sont un problème et pas du tout un argument moral ou idéologique. Après, certains, vous savez, chez nous, veulent une France sans milliardaires. Au moins, si on a une France sans milliardaires, on n'aura pas de débat pour savoir s'il faut les taxer. Mais ça, c'est plutôt ironique. Et bon, après, on parle aussi toujours d'une taxation exceptionnelle, temporaire, car situation exceptionnelle. On sait que chez nous, on a tendance généralement à annoncer la fiscalité temporaire qui devient facilement définitive. Je vous ferai pas l'historique de la CRDS qui était temporaire mais qui existe toujours, ou encore la taxe professionnelle dont Nicolas Sarkozy nous disait à l'époque « je l'ai supprimée », on l'avait juste réincarnée en deux autres impôts de production, elle n'a jamais été supprimée. Alors pourtant, le débat existe, même au-delà de nos frontières. Le FMI, l'OCDE, défendent l'idée de taxer de manière temporaire, effectivement, voire les personnes physiques, ou alors les profits très importants pour faire de la redistribution. On peut entendre ce débat, on peut l'avoir. Quand on parle de redistribution, je rappelle là encore qu'on a une spécificité chez nous, c'est qu'on a un dispositif de redistribution monétaire qui est le plus généreux du monde, le plus efficace du monde, et qui réduit très considérablement le taux de pauvreté. Donc, est-ce qu'au nom de la redistribution, la France devrait aussi rentrer dans ces sujets-là? Bon. Mais on va avoir le débat sur les super-profits. Je vous donne mon ticket qu'il y a au moins un journal demain matin qui fait la une là-dessus.
Allez, on prend le pari. Merci beaucoup, Nicolas Dose. La polémique tous les matins, 10h40 sur BFM Business, les marchés financiers.
Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
La bourse de Paris orientée à la hausse ce matin, plus 0,58% pour le CAC, 7173 points, portés notamment par les propos de Jérôme Powell hier soir aux États-Unis. Le patron de la réserve fédérale américaine rassure les marchés financiers. Il confirme que la désinflation a bien commencé aux États-Unis, même si le marché de l'emploi reste par ailleurs très solide. Ça a rassuré les investisseurs qui redoutaient un durcissement du discours par rapport à ce qui avait été annoncé la semaine dernière lors de la réunion du FOMC. Parmi les valeurs qui se distinguent à la Bourse de Paris, c'est une séance marquée par des résultats, mais avec des réactions qui peuvent être un peu surprenantes. Total Energy, notamment, perd 3% sur le marché parisien, alors que le groupe a annoncé des bénéfices annuels records. En baisse également, Société Générale, pratiquement inchangée maintenant, mais toujours légèrement dans le rouge, 0,04% de baisse. Pourtant, il y a eu des résultats ce matin, mais le retour aux actionnaires semble avoir déçu le marché, en comparaison évidemment par rapport à ce qui avait été annoncé hier par BNP Paribas qui poursuit sa hausse. Le titre gagne 1,7%.
BFM Business, BFM Patrimoine, le club IMO.
Deuxième partie du Club IMO avec toujours nos invités. Éric Tréguier, journaliste au magazine Challenge. Bruno Monnier-Vinard, journaliste au magazine Le Point. Et Marie Cœur-Droit, notre spécialiste du marché immobilier. Est-ce que réellement le viager est en train d'accélérer? C'est en tout cas l'histoire qu'on nous raconte à longueur de pages web depuis maintenant quelques mois. On a eu 10 000 transactions en 2021 contre 5 000 à 8 000 en temps normal. Et on nous explique que le vieillissement de la population et la réforme des retraites sont en train d'accélérer. Accélérer la tendance. Vous, Éric Tréguier, vous n'êtes pas d'accord.
Ben oui, parce que d'abord, ce chiffre de 10 000, c'est un chiffre qui est produit par les gens qui vendent du viager. Il y a des agences immobilières qui sont spécialisées dans le
viager. Cette bonne guerre.
Donc, quand on regarde ce qui se passe du côté des notaires, et là, c'est la paix des braves, c'est-à-dire c'est eux qui ont quand même les chiffres, on est sur largement moitié moins de véritables viagers. Pourtant, c'est quand même une solution très intéressante aujourd'hui, surtout que ça permet d'obtenir un complément de revenus pour celui qui vend en viager, parce que le principe il est simple, hein. C'est-à-dire que vous restez dans les lieux et vous vendez le bien dans lequel vous allez rester toute votre vie durant, jusqu'à ce que vous partiez, et à votre décès, l'acheteur récupère le bien qu'il a globalement payé entre 30 et 40% moins cher sous forme d'un bouquet et d'une rente, qui la rente dépend elle-même de l'espérance de vie du vendeur.
Évidemment, pour l'acheteur, c'est un peu la loterie. Je ne vais pas vous ressortir l'exemple, mais je vais la faire quand
même. De Jeanne Calment.
Son notaire, qui avait acheté, je crois, en 1959 ou quelque chose comme ça. Oui. Elle avait 90 ans à l'époque et le pauvre notaire est décédé avant elle.
Effectivement. Mais c'est quand même une exception. Hein, parce que quand on regarde les chiffres, il y a 90% des gens qui ont vendu en viager qui décèdent à 3 ans de moins ou 3 ans de plus de leur espérance de vie.
Ça, c'est la fourchette.
Ça, c'est la fourchette.
Plus ou moins 3 ans.
Voilà. Et donc, au pire, ce que vous risquez vraiment, c'est 3 ans de plus par rapport à l'espérance de vie potentielle de la personne. Il faut savoir une chose quand même, c'est que quelqu'un qui vend en viager a une espérance de vie légèrement supérieure à celle de la moyenne de la population.
C'est-à-dire qu'il vit mieux.
Il vit mieux. Pourquoi? Parce
qu'on lui donne de l'argent.
On lui donne de l'argent, il n'a plus à s'occuper de ça, et ça lui donne une sorte d'incitation à continuer à vivre.
Bruno, ça vous inspire le viager?
Il y a des formules qui sont intéressantes, notamment lorsqu'on touche un bouquet d'un seul coup, et ce qui permet de faire d'engager des travaux de confort pour les personnes pour le grand âge.
La moyenne est à 31% de la valeur du bien, le bouquet. Là encore, c'est ce que nous disent les professionnels du viager.
Il y a des formules en nue propriété.
Ouais, en fait, t'as une formule où t'as le bouquet sans la rente. En fait, tu payes tout sans la rente. Donc, en gros, tu vas. Non, mais c'est hyper intéressant pour le coup parce que t'as plus cet aléa, entre guillemets, sur la vie, hein. C'est ça qui parfois refroidit beaucoup les acheteurs.
Et on peut en profiter pour faire des travaux ou voyager ou se faire plaisir d'ailleurs, hein. Ou transmettre à sa famille.
Oui, alors, c'est ça aussi le point intéressant. On s'imagine toujours que dans le cadre du viager, les héritiers sont lésés. Alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. On peut transmettre le bouquet.
Mais non, c'est souvent mieux, puisque vous savez qu'on hérite de plus en plus tard. Ouais. Là, ça permet d'obtenir une somme assez tôt. Et on peut demander, par exemple, il y a des viagers où on a 100% en bouquet. Et donc zéro en rente.
C'est ça.
Ouais, cela dit, c'est pas la même catégorie fiscale.
Non.
Si on donne le bouquet à ses enfants, c'est quoi? C'est une transmission de cash?
Ah ben c'est une transmission.
Ah ben après c'est toujours pareil, c'est les donations à partir de 100 000 euros vous êtes fiscalisé.
Mais il y a des abattements, donc il faut jouer avec les abattements. Vous avez deux enfants, ça fait 200 000 et c'est renouvelable tous les 10 ans.
On va parler des autres sujets, je vous le disais, le sommaire est assez important. Passoire thermique, diagnostic des malades et ordonnance de guérison, Bruno.
Alors je vais faire vite, comme on a beaucoup de sujets. Donc la performance énergétique, la valeur verte du logement, c'est invité dans le débat immobilier récemment. J'en veux pour preuve une récente communication de Se Loger qui nous dit que le DPE est devenu un critère à part entière dans la recherche des biens, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. On sait que il s'est invité aussi dans le débat réglementaire. On sait qu'il y a eu un carton rouge. Hein, il y avait des cartons jaunes, mais là il y a eu un carton rouge pour les pires passoires énergétiques, celles qui sont estampillées G+. Je rentre pas trop dans la technique, hein, mais donc ces passoires où on peut le dire, hein, on jette plus de l'argent par les fenêtres que ça me fait penser un petit peu aux vieilles guimbardes qui crachaient de la fumée noire avant le contrôle technique, voilà. Donc là, ça concerne, je crois, c'est 190 000 logements tout de même, pas tous loués, hein. Et ceux-là, ils ne pourront plus être loués. Ils ont déjà leur loyer qui est gelé. Sinon, si on parle de la, mais je ne vais pas entrer dans le débat du calendrier restrictif, est-ce que sa faisabilité,
ça. Vous inquiétez pas, Marie va le faire.
Non. Voilà.
Non. Ce que je voudrais dire, c'est montrer un peu un profil. Le profil des passoires énergétiques aujourd'hui, c'est quoi en France? C'est majoritairement des maisons qui datent qui ont été construites avant les années 50, qui sont chauffées au gaz ou au fioul. Elles sont occupées aux deux tiers par des propriétaires, donc un tiers par des locataires. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les améliorer? Alors, ce qu'on peut faire, c'est d'abord faire un DPE qui soit fiable, ensuite un audit, et ça on ne le dit pas assez, un audit énergétique pour voir quels sont les travaux qu'il y a à engager pour gagner des étiquettes de classe énergétique, faire des devis, et surtout pas engager des travaux avant d'avoir obtenu les subventions, parce que sinon on est chocolat. Alors, dans l'ordre, une rénovation efficace, c'est quoi? C'est d'abord l'isolation, la coquille, l'enveloppe, l'isolation thermique, on commence souvent par le toit. Après, le choix du chauffage et ensuite la ventilation. Je pense que, je ne sais pas si on a des visuels, mais j'ai demandé à EFI quels étaient les gestes les plus plébiscités en 2022. Et ça a été en ex aequo en premier, l'isolation des murs par l'extérieur et le remplacement des fenêtres en double vitrage, ensuite les poêles à bois, ensuite l'isolation des combles et ensuite une pompe à chaleur.
Et on n'a pas les visuels, donc si vous nous écoutez à la radio, vous n'avez rien perdu. Marie, le DPE.
Le DPE, on en parle toutes les semaines, il y a toujours un... Alors c'est vrai que ce que dit Bruno, on sait ce qu'on a à faire, encore faut-il qu'on ait les moyens de le faire, parce qu'effectivement, avant de lancer les travaux, renseignez-vous sur les aides, mais il y a de fortes chances que vous soyez relativement déçus par les aides qu'on va vous proposer, parce que vous aurez toujours un reste à charge que vous considérerez plus ou moins trop lourd, et que donc ça va sans doute vous refroidir à l'idée, et sans mauvais jeu de mots, de faire les travaux nécessaires, plus effectivement cette question de la fiabilité du diagnostic de performance énergétique, à savoir est-ce que le nouvel outil pour faire ce DPE, est-ce que les diagnostiqueurs eux-mêmes, mon choix de diagnostiqueur, tout ça entre en ligne de compte. Donc maintenant on a tellement de doutes sur la note du logement qu'on va nous attribuer, les aides que je vais recevoir si je fais les travaux et les économies d'énergie que je vais effectivement pouvoir réaliser, pour peu qu'il n'y ait pas une autre étude qui vienne nous dire qu'en réalité ça ne sert pas à grand chose, parce qu'il y en a qui sortent comme ça des études. En fait moi j'ai peur que on arrive et que ça fasse pchit. Et par ailleurs il y aura toujours les bons bailleurs, j'ai envie de dire les gentils bailleurs, qui vont peut-être effectivement mettre leurs biens sur le marché faute de pouvoir rénover, et puis vous aurez les autres qui s'en ficheront totalement, parce que la question ça sera de savoir qui va contrôler. Est-ce que vraiment les locataires vont aller se plaindre de la note de leur logement ou pas? Et donc bon, ça c'est un autre sujet, mais
il y a quand même un autre problème, c'est que quand on a 190 000 logements qui sont G+ et qui sont effectivement des passoires thermiques,
ça fait déjà une grosse ville de province.
Ça fait déjà une grosse ville de province, mais qui les habite? Ce sont des gens qui sont propriétaires et locataires, mais qui sont dans des situations de revenus très bas. C'est un logement social de fait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas le moindre euro à mettre dans une rénovation. Alors, soit on la prend en charge complètement, soit on ne les oblige pas à déménager et à trouver autre chose, parce qu'il n'y a pas autre chose. Donc, il faut qu'on ait conscience que là, on est devant un problème dont les parlementaires doivent se saisir, parce que on a mis en place une législation qui va exclure les plus fragiles de leur logement.
Il nous reste 5 minutes, on va faire vite. D'abord, une petite précision, Eric. Nouvelle obligation de déclarer son logement au fisc. Je vous rappelle ce qui s'est passé pendant la pub. Eric me dit, t'es propriétaire de ton logement, tu vas devoir le déclarer au fisc.
Bah oui. Et donc Stéphane, vous avez appris que vous ne l'avez pas fait.
Je ne suis pas propriétaire.
Vous allez devoir le faire de tous vos logements. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que...
Et il y en a tellement, Stéphane.
On est propriétaire de son logement, de son habitation principale. On a peut-être quelque chose qu'on loue. On a peut-être une résidence secondaire. On a peut-être un garage quelque part. Je ne sais pas. On est aussi locataire et parfois on investit dans du Pinel, de l'ancien, etc. Et donc, tout ça doit être déclaré. Pourquoi est-ce que tout d'un coup le fisc vous demande de déclarer des choses? Tout simplement parce que la taxe d'habitation va disparaître et sous son nez, le fisc va perdre sa meilleure source d'information. Et puis derrière, il y a des gens qui sont un petit peu en embuscade, c'est-à-dire les communes. Parce que qu'est-ce qu'elles voient, elles, les communes? C'est que il y a une certaine partie du parc qui lui échappe. Elles savent pas, par exemple, ce qui se passe dans tous les logements de leurs administrés, et notamment ils savent pas si il s'agit d'une habitation principale, d'une habitation secondaire, si cette habitation qui est secondaire mais déclarée par exemple vide, elle est vraiment, si des transformations ont été faites, si vous avez installé une piscine. Alors on a vu des communes qui ont été voir des entreprises en leur disant, les gars, vous allez me trouver tous ces truands d'administrés qui font construire des piscines chez moi. Alors, et on a envoyé des drones pour aller regarder. Mais il y a des petites communes qui ont comme ça récupéré 90 000 euros de rentrée fiscale annuelle. Et très souvent, on s'aperçoit que de bonne foi ou de mauvaise foi, des administrés ont déclaré comme étant vacants des locaux qui ne l'étaient pas, et comme ça ils échappaient à la taxe sur les locaux vacants, qui représente, je vous rappelle, 17% la première année de la valeur locative annuelle et 34% les années suivantes.
Il nous reste 3 minutes, 3 sujets, ça veut dire une minute par sujet. D'abord la vie de château avec vous, Bruno. Envolée du volume des ventes, c'est vraiment... Le château à la côte.
Alors, je vais faire synthétique. Donc, une vogue sans précédent pour les ventes de châteaux, hein, plus 15% sur ces deux dernières années.
Des grosse prix, passoire, hein, les châteaux.
Des prix qui ont pas mal augmenté. Auparavant, la fourchette moyenne, c'était entre 700 000 euros et 1,5 million. Aujourd'hui, on est plutôt entre 1 et 2 millions. Ce qui a changé, c'est un peu le profil des acquéreurs. C'est-à-dire
c'est
que
superbe.
Ce sont des châteaux qui sont achetés, bien sûr, par des amoureux du patrimoine, mais de plus en plus par des gens qui associent une activité culturelle ou commerciale, c'est-à-dire des chambres d'hôtes, des séminaires, des mariages, des expositions, des tournages de films et j'en passe. Et il faut savoir qu'il y a des subventions si votre château est classé monument historique, hein, avec donc des avantages fiscaux et des subventions publiques pour les travaux de conservation et d'entretien. Il faut faire attention à des gros postes de dépenses, c'est-à-dire la toiture, l'assainissement, les égouts et les eaux usées, le réseau électrique, la plomberie, le mode de chauffage.
Il faut faire attention à tout, quoi.
Voilà, il faut faire attention. Et puis, l'image du château à la Harry Potter ou à la Belle au Bois Dormant, c'est fini. Hein. Aujourd'hui, c'est du confort, c'est Internet aussi. Il y a des agences qui sont spécialisées dans ce type de transactions. Je vais en citer une dont je montre les biens vendus en 2022. Hein. C'est l'agence Patrice Bess.
On va parler d'un loft à Marseille.
Oui, alors c'est pas un château, hein, mais c'est pas mal. Tous les Français aiment Marseille, c'est une des villes préférées des Français. Et moi, je vais vous parler d'un loft qui, bon, c'est quand même 1,3 million. C'est pas donné pour Marseille. C'est commercialisé par Émile Garcin, un spécialiste des biens de charme, et c'est un peu aussi du rêve. On est dans un immeuble du 17e qui donne directement sur le Vieux-Port, hein, vu sur les bateaux. 100 mètres carrés, entièrement rénové, beaucoup de lumière, donc avec des beaux matériaux dans un salon donc tourné vers ce vieux port, ce bassin, une salle à manger, une cuisine, une suite parentale. Ce qui est original, c'est qu'il est vendu tel quel, c'est-à-dire avec ses meubles, sa décoration et ses œuvres d'art. Voilà, j'ai fini. Vous voyez, j'ai été court.
Ouais,
allez,
il nous reste
quelques secondes. On va parler de Méribel quand même.
Alors, Méribel, station dans le domaine skiable des Trois-Vallées, 1750 mètres d'altitude.
C'est beau, hein.
Voilà, c'est le plus grand domaine skiable de France. C'est la destination qui a été la plus convoitée cet hiver pour le ski, selon le PAP. Donc l'or blanc est toujours là. Hein. À Méribel Village, on a des appartements entre 12 000 et... Enfin, Méribel Village et le rond-point des pistes, on a des appartements entre 12 000 et 19 000 euros du mètre carré, quand même. Et les chalets, entre 13 et 25 000 euros. Parlons d'une opération très récente. C'est l'ancien club Med qui a été racheté et métamorphosé par le groupe immobilier Valla et qui en fait une collection d'appartements chalets de très haut de gamme. Il y en a 63. En gros, c'est vendu entre 1,9 et 13 millions. Mais alors, rassurez-vous, si vous n'avez pas les moyens, avec quand même des possibilités de récupérer la TVA.
Ah, bah merci, voilà, ça va.
Et si vous n'avez pas les moyens, mais vous pouvez les louer. Le groupe Aubani, qui fait des locations de biens de très haute gamme, les a dans son catalogue. Et vous pouvez payer à partir de 3000 euros la nuit pour 2 à 3 chambres, ou alors 6300 euros pour 7 chambres.
Ouais.
Et vous avez bien sûr jacuzzi extérieur. Et ce que j'ai oublié de dire, très important, c'est cette piscine qui fait 25 mètres, c'est la plus haute piscine de France.
C'est magnifique, mais on est tous les 4 journalistes autour de la table. Hein.
Voilà.
Donc c'est pas demain la veille. Ou alors on est invité. Mais dans ces cas-là, on est vraiment journaliste.
Je laisse à Marie-Cœur Dora la responsabilité de ses propos. Merci à tous d'avoir participé à ce
Merci.
Club Immo. Éric Tréguier, magazine Challenge, Bruno Monnier-Vinard, magazine Le Point et Marie-Cœur Dora de BFM Business. On est en retard, on se retrouve juste après la pause.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.